Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Nicolas Bavrez. Bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Merci d'être avec nous sur Boursorama. C'est demain que le gouvernement, donc mardi, il va établir, dresser sa nouvelle trajectoire financière pour les années à venir et tous les efforts qu'il faudra évidemment consentir dans la foulée. Déjà, est-ce qu'il faut conserver ou pas cet objectif de revenir sous les 3% du déficit public en 2027, ou sachant qu'on a bien compris qu'a priori, c'est quasi illusoire vu la conjoncture économique dégradée?
En fait, le vrai objectif, parce que finalement, le problème, ce n'est pas le niveau de la dette, c'est son caractère soutenable ou non.
Mais c'est soutenable, a dit Pierre Moscovici, le président de la Cour des comptes.
En fait,
cette dette, elle est soutenable.
C'est faux.
Il est bien placé comme
pour le... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la soutenabilité de la dette, il y a une partie économique, une partie financière. La partie économique, elle est très simple, c'est-à-dire qu'il faut que la croissance nominale soit supérieure au taux d'intérêt. Ouais. Aujourd'hui, les taux d'intérêt sont à 4%. La croissance, depuis 2019, la croissance, c'est 0.
Donc, quel taux est à 4%? Le 10 ans français était à 2,90.
Je prends le taux de la BCE parce que c'est
d'accord,
quand même
okay. Taux directeur de la BCE.
Celui qui est directeur. La croissance française, elle est à 0,4. L'inflation, ce qui est heureux, est redescendue autour de 2,1.
Ouais.
Le 2,
ouais. ça fait 3.
Donc vous voyez, ça fait, avec les 0,4 de croissance, ça fait 2, 6, 3.
Donc on est en dessous, croissance nominale, avec les prix, on est en dessous des taux d'intérêt.
Voilà, alors c'est vrai que pour l'instant, vous l'avez rappelé, l'OAT reste très bien traité par les marchés, mais ouais. En tout cas, on voit la zone de risque. Et l'autre aspect sur la soutenabilité proprement financière, ça dépend de ce qu'on appelle le déficit primaire, c'est-à-dire le déficit
hors intérêt.
Voilà, hors intérêt de la dette.
Ouais.
Or, aujourd'hui...
On a combien? On a 3,5.
On est à 3,8 en déficit primaire aujourd'hui. Et pour avoir une dette soutenable, il faudrait que ce soit à 0,5. Ce qui est finalement...
3 points de PIB. Il y a 3 points de PIB à...
Exactement.
Ce qui veut dire 3
donc,
fois...
Donc
75 milliards d'euros d'économies à réaliser si on veut...
Les choses sont extrêmement claires, c'est-à-dire que... Si on veut ramener, donc ce n'est pas l'histoire des 3%, mais si on veut ramener la dette française à un niveau soutenable, il faut faire un point de PIB de réduction du déficit par an pour les 3 années qui viennent. L'équation est extrêmement claire. Et sinon, contrairement à ce qu'on a vu, hein, c'est-à-dire que le... On peut penser que les gens comme moi qui alertent sur la dette, mais Michel Pébrot l'avait fait aussi.
Je me rappelle.
Et on peut dire.
Michel Pébrot, on est en 2006. Il y a un petit problème de micro, on va venir vous le régler. On est en 2006. En 2006, déjà à l'époque, on parle d'un problème de la dette. On avait une dette à l'époque qui était, je ne sais pas, peut-être 50%, 60% du PIB. Aujourd'hui, on est à 120 points de PIB. Et pour autant, on n'en est pas mort. L'État français se finance toujours correctement. On est dans la roue. Sous le parapluie allemand, il n'y a pas de peur des investisseurs qui ont du mal, qui demanderaient une surprime à la France pour pouvoir s'endetter plus cher. Donc pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on aurait, pourquoi est-ce que c'est si grave que ça aujourd'hui, hein?
Alors c'est grave, j'allais dire, pour les raisons qu'on a vues. D'abord, la France est une exception. Le dernier excédent budgétaire.
1974.
Voilà, donc on fête aujourd'hui les 50, enfin on fête en ce moment, c'était le 2 avril, si je puis dire, où on commémore l'anniversaire de la disparition de Georges Pompidou. C'est le dernier président qui a livré un budget en excédent, c'était 0,2% du PIB. Donc la France est le seul grand pays développé qui a aligné 50 années de déficit consécutif. Par ailleurs, comme je le rappelais, il y a le niveau de la dette et puis... il y a le contexte général et puis la situation de l'économie. Alors, aujourd'hui, l'économie française, c'est un espèce de carré infernal, c'est-à-dire 0,4 de croissance.
1%, nous dit le gouvernement, et 0,8
moins les grandes institutions. Moins 6% de gains de productivité depuis 2019, ce qui est quand même très inquiétant. Un chômage qui remonte vers 8%, c'est le deuxième côté. 100 milliards structurels de déficit commercial et 5,5% du PIB, mais un déficit structurel qui est autour de 4,5, un déficit primaire à 3,8. Ça,
c'est intenable pour vous?
Ça, c'est intenable. Et l'autre chose qui a changé, c'est le contexte. L'argent gratuit, c'est terminé.
La BCE va rebaisser ses taux d'intérêt à partir du mois de juin.
Oui, enfin, tout le monde table sur ces baisses de taux d'intérêt. D'abord, elles seront sans doute moins nombreuses et moins importantes que prévues aux États-Unis. Et pour l'instant, on ne les voit pas arriver, en Europe. Et je rappelle quand même que nous avons très proche de nous le Royaume-Uni qui a connu une tourmente financière en 2022 et qui est toujours sur surveillance, sous surveillance aiguë des marchés aujourd'hui. Donc la dette française aujourd'hui, elle est vraiment sous surveillance. Et donc,
en même temps, je vous lis et on vous reçoit depuis longtemps. On annonce que on va dans le mur, que c'est pas soutenable depuis tellement longtemps et ça tient jusqu'au jour peut-être où ça tiendra plus. Mais aujourd'hui, ce que nous disent les marchés qui nous financent chaque année, c'est qu'on se finance avec un écart, ce qu'on appelle un spread, un écart de taux d'intérêt avec l'Allemagne qui est de 50 points de base, qui est classique. Il se passe rien sur les marchés.
Alors, il s'est pas passé grand-chose, mais comme toujours avec les marchés et comme vous le savez, les marchés ne sont jamais dans la mesure ou dans la moyenne. Donc, le jour où ça démarre, ce qu'a connu l'Italie en 2011...
Mais on ne sait pas quand, ni pourquoi, ni quand, ni combien.
Si tout le monde connaissait l'évolution des marchés, vous allez en parler, on serait tous très riches. Mais donc, on ne sait pas quand, mais ce qui est certain, si vous voulez, c'est que dans le monde qui vient, il va y avoir de toute manière, quelle que soit, là encore, la politique des banques centrales, il va y avoir une tension sur les taux longs. Pourquoi ? Parce qu'il y a, par rapport à l'épargne disponible, il va y avoir une énorme demande de capitaux. Parce qu'il va falloir financer le vieillissement, la réindustrialisation, le numérique, la transition climatique et le réarmement. Et en face de tout ça, en réalité, les montants d'épargne... Alors, il y a un pays qui est dans une situation très particulière, les États-Unis, puisqu'avec le dollar, les effets refuges, quoi qu'il arrive, j'allais dire...
Ils ont de la chance, hein.
Quand on regarde les capitaux, mais si vous voulez, c'est l'autre aspect qu'il faut avoir en tête, qui est pour le coup géopolitique. Si vous regardez depuis une dizaine d'années, augmentation des flux de capitaux aux États-Unis, plus 20%. Mouvement des capitaux vers la zone euro, 0%. Donc c'est stable. Et aujourd'hui, avec la croissance américaine, le faible coût de l'énergie, la déréglementation qui a lieu aux États-Unis, en fait, plus l'effet de réassurance et de sécurité, il y a un flux massif de capitaux qui vont vers les États-Unis. Donc, ça veut dire deux choses. Ça veut dire que le risque d'avoir un choc sur la zone euro est bel et bien important, que dans la zone euro, il y a deux pays qui sont gravement malades, l'Italie et la France, mais l'Italie est au-dessus en termes de déficit, mais a davantage réduit sa dette.
Ils sont au mois de mars, ils ont revu leur déficit à la hausse de 2 points. Ils sont
absolument, à 7,2.
Ils sont à 7%. Donc nous, à côté, avec nos 5,5, on est mignons. Quoi.
Oui, mais...
Il n'y a pas eu de tempête. Et, que je sache, les taux souverains italiens ne sont pas emballés. Hein.
Oui, parce que l'Italie, en même temps, s'est servie de l'inflation pour diminuer sa dette davantage que nous. Ils sont passés de...
On est étranglé, la France est étranglée aujourd'hui. Vous l'avez écrit d'ailleurs dans le Figaro, je vous lis.
Oui,
La France est étranglée par son endettement aujourd'hui.
Oui, mais d'ailleurs, on le voit très bien. C'est vrai que, si vous voulez, un autre point qui n'est pas suffisamment souligné, mais qui a été, que vous avez évoqué précédemment, c'est que l'autre problème de la dette française, c'est que c'est un argent qui a été dilapidé. Il n'a rapporté rien. Il n'a pas été investi. Il a été simplement...
Il y a des plans de relance, des plans de soutien, il y a France 2030.
Ça a été distribué à des clientèles, en réalité.
Ça a protégé les Français pendant le Covid. Ça a protégé les Français quand les prix ont flambé.
Alors, le Covid, c'est au maximum, sur les 1 000 milliards de dettes supplémentaires depuis 2017...
C'est sous Emmanuel Macron que jamais la dette a autant augmenté en France.
Oui, on a 3 100 milliards de dettes et Emmanuel Macron compte pour 1 000 milliards. Donc c'est accablant. Sur ces 1 000 milliards, il y a au maximum 220 milliards de Covid. Le reste, ça a été la distribution à de clientèle avec un argent que la France n'avait pas. Et la seule chose qui est réelle là-dedans, c'est la dette maintenant qu'il faut rembourser.
Non, mais la dette ne se rembourse pas, vous le savez bien. La dette, elle est... On réemprunte. Ce qui est important, c'est la charge d'intérêt, qu'elle soit soutenable.
Oui, la charge d'intérêt, c'est très clair. Hein, c'était 40 milliards en 2012, ça va être 84 milliards en 2027.
Ouais.
Donc, elle va plus que...
Ça sera le premier poste.
Premier poste budgétaire, voilà. Et plus que les recettes de l'impôt sur le revenu. Donc, là, où, je le répète, on a un problème sur l'utilisation de cette... c'est qu'il y a le niveau de la dépense publique et il y a surtout son inefficacité. Pour 58% du PIB de dépenses publiques, j'ai aujourd'hui un système de santé totalement dysfonctionnel. L'éducation, on voit, plus rien ne marche. Les transports, ça ne marche pas. La justice, ça ne marche pas. La police, la sécurité, la violence flambe. Donc, on a un double problème, le niveau et l'efficacité de la dépense publique.
Alors, on fait quoi ?
Et ce que je constate, si vous voulez, encore aujourd'hui, moi, Dieu sait que c'est un dossier, je pense, sur lequel on sera tous d'accord, sur le fait que on réfléchit aujourd'hui à la fin de vie. Le premier chapitre de ce projet de loi, c'est les soins palliatifs. Les soins palliatifs, c'était déjà dans la loi Leonetti, et donc on n'a simplement pas appliqué la loi. Aujourd'hui, on annonce 1 milliard d'euros de plus sur les soins
palliatifs. Sur 10 ans.
Sur 10 ans. En soi, c'est très bien, sauf que comment c'est financé ? Par la dette. Et donc, on voit très bien que nos gouvernants continuent à aligner des dépenses sans faire de choix. Et Mendès France...
Sans faire de choix.
Mendès France le disait, gouverner, c'est choisir. Donc, si on veut faire des soins palliatifs, et on a sans doute raison de le faire, ben c'est très bien, mais il faut savoir quelles sont les dépenses sociales qu'on annule en face.
Comment on fait pour... Donc, je reviens à ma question initiale, Nicolas Bavrez. Il faut ou pas conserver cette trajectoire de 3% de déficit public, sachant que... Elle paraît illusoire et c'est mission impossible.
Moi, je pense que...
Et tout le débat derrière, c'est le débat de la réforme de l'État. Après, on peut parler des hausses de fiscalité.
Moi, je vous dis, je préférais une trajectoire où on se préoccupe de la soutenabilité de la dette. La soutenabilité de la dette, c'est comment on fait passer le déficit primaire de 3,8 à 0,5% du PIB.
La question, c'est ce qu'on fait en 2 ans, 3 ans ou en 10 ans.
Et alors ensuite,
les marchés ne nous poussent pas à le faire en 6 mois ou en 1 an ou en 2 ans.
Non, ça peut. Hein. Et si vous voulez, là où on voit que ce n'est pas du tout impossible, prenons l'exemple du Portugal. Le Portugal, cette année, c'est 1,2% d'excédent budgétaire.
Oui.
Le Portugal, en 10 ans, a fait passer sa dette de 133% du PIB à moins de 100% du PIB.
Beaucoup de précarité, en plus, au Portugal. Hein, au prix de.
Il y a toujours.
Les gens, je lisais, qui ont parfois 2 ou 3 boulots dans une même journée. Hein.
C'est ce que je disais, il faut faire des choix. Donc, évidemment, il n'y a pas de paradis. Donc, évidemment, le rétablissement des finances publiques, ça ne va pas se faire sans mal. Évidemment, sur cet argent public qui est déversé, il a une efficacité faible, mais une efficacité économique et sociale faible, mais il n'empêche que, bien évidemment, il bénéficie aux gens qui le touchent. Mais on a une manière, je le répète, de faire beaucoup mieux avec moins.
Ça veut dire réduire le périmètre de l'État, ça veut dire privatiser, c'est ça la logique qui est derrière, ça veut dire...
Alors d'abord, on peut effectivement céder des actifs publics, c'est certain, il y a l'immobilier, mais il y a aussi des entreprises publiques sur lesquelles, très franchement, il n'y a aucune justification parce qu'elles ne sont pas...
C'est-à-dire
si vous prenez par exemple les aéroports, ce n'est pas délocalisable, hein, donc est-ce que l'État contrôle les tarifs, l'État contrôle le foncier, l'État contrôle tout, est-ce qu'il a besoin de contrôler le capital en plus, on peut se le demander. Et surtout, derrière, il faut bouger le modèle. Donc, vous l'avez dit, d'abord, on a des doublons partout dans cette espèce de millefeuille administratif. On le voit en matière de transport, d'éducation. L'État, en fait, a faussement délégué des compétences, mais il continue à vouloir garder la main, ce qui est absurde.
En plus des collectivités.
Plus les collectivités. Donc, il faut remettre de l'ordre là-dedans. Et il faut s'attaquer, surtout... À la dépense sociale, puisque les comptes sont en partie truqués, notamment pour la retraite, puisque pour la retraite, on ne prend pas en compte dans les comptes du système les pratiquement 60 milliards d'euros de subventions d'équilibre de l'État pour
les retraites des fonctionnaires.
Pour les fonctionnaires.
C'est ce que m'expliquait Jean-Pierre Levade quand il est venu la semaine dernière.
Il a tout à fait raison.
Je ne connaissais pas cette histoire.
En réalité, les comptes sociaux sont structurellement déficitaires de 2,5% du PIB. Et ça, notamment pour la retraite, c'est vraiment scandaleux parce qu'on ne peut pas avoir un système de répartition qui soit déficitaire. Sinon, c'est la spoliation des générations futures. Et c'est vraiment ce qu'on a organisé et continue à faire depuis des décennies. Et avec un système où, là encore, C'est très bien que le niveau de vie moyen des personnes âgées et des retraités a beaucoup augmenté, mais le fait que ce niveau de vie soit supérieur de 10% à celui des actifs, on est le seul pays où c'est le cas, et franchement, ça ne peut pas fonctionner. Et ça va de pair avec des inégalités qui sont très importantes. Et cette réforme, donc ce qu'on a fait l'an dernier, c'est une fausse réforme des retraites.
Janet Yellen, la secrétaire au Trésor, change de sujet, est en déplacement en Chine. Elle dit « Washington n'acceptera pas le déferlement de produits chinois vendus à perte ». Ça, c'est clair et net quand même. Hein.
C'est clair et net. Et,
c'est de la com ou est-ce que vraiment…
Non, les États-Unis ont tout à fait raison. Qu'est-ce qui se passe en Chine ? Il y a un vrai changement, c'est-à-dire que Xi Jinping a complètement cassé la stratégie de Deng Xiaoping qui a donné lieu aux 40 glorieuses chinoises. La reprise en main par le Parti communiste et puis la brutalité incroyable, les erreurs, par exemple la gestion calamiteuse de l'épidémie de Covid, ça a complètement cassé la confiance des Chinois.
Donc, l'idée, ils ne consomment plus.
L'idée, voilà, enfin, ils n'ont jamais beaucoup consommé,
oui,
puisque par rapport à la consommation a toujours été autour de 40% du PIB.
Là, on est à 2/3 dans les comptes.
Nous, on est à 2/3, mais par exemple, un pays comme le Mexique est à 60%. Donc, la contrainte est donc… L'idée de basculer vers la demande intérieure, ça c'est mort parce que il y a la défiance et puis il y a la crise de l'immobilier qui représente 60% de l'épargne.
Donc aujourd'hui, Pékin mise tout sur l'export, sur…
Donc ils investissent massivement sur l'industrie.
Avec des subventions.
Ils ont organisé avec des subventions, des aides. Ils ont ciblé des secteurs vraiment stratégiques pour notamment la transition, tout ce qui est
panneaux solaires.
Voilà, les panneaux solaires, les éoliennes, tout ce qui est énergie renouvelable, batteries, véhicules électriques. Et ils ont déjà aujourd'hui dans ces domaines une surcapacité par rapport à la demande mondiale. Je ne parle même pas de la demande chinoise, une surcapacité énorme. Et donc, ils sont en train de déverser tout ceci sur le monde entier. Les États-Unis, fort légitimement, expliquent que ça n'est pas possible. Et c'est vrai que… L'Europe, pour l'instant… de toute façon, une fois que…
Ça va laminer.
Les États-Unis vont mettre des taxes très élevées, donc il va de soi que tout ça va filer en Europe si on n'y prend pas garde. Et pour l'instant…
Mais l'Union européenne qui a lancé une enquête, elle prend son temps, en mois de septembre, sur les subventions chinoises à la production de voitures électriques.
Si vous voulez, pendant qu'on lance les enquêtes, les Chinois prennent tout le marché et vont tuer tous les producteurs européens. C'est déjà arrivé sur le solaire, donc ce qui est ahurissant…
Les Chinois, pour vous, vont tuer tous les producteurs européens de quoi ? De voitures, de…
Véhicules électriques, ça va…
Panneaux solaires.
Véhicules électriques, panneaux solaires. Et les panneaux solaires, c'est déjà arrivé. Ce qui est ahurissant, c'est qu'ils ont déjà fait la même chose il y a 15 ans. Et on est en train de les laisser refaire exactement le même scénario. Donc
il faudra que les Américains vont le faire, que l'Europe aussi s'arme et impose des droits de douane de 10, 20, 30, 40%.
Et on a des stratégies, par exemple, les Chinois utilisent les maillons faibles, ils investissent par exemple beaucoup en Hongrie. En Hongrie,
comment on va faire si BYD ouvre en Hongrie
C'est déjà fait, figurez-vous que les Belges viennent de passer un énorme marché d'autobus et que qui est-ce qui a gagné? C'est BYD qui a promis de créer une usine de bus électriques.
Usine de voitures, a priori, qu'en Hongrie aussi.
En Hongrie, oui, toujours. Et donc…
On ne pourra pas si ces voitures sont produites sur le sol européen au sens large, on ne pourra pas les taxer, ces voitures.
Oui, enfin, c'est pour ça qu'on a mis en place quand même théoriquement un contrôle des investissements étrangers. Ouais. Et je rappelle par ailleurs qu'il y a des règles normalement qui s'appliquent dans le commerce international contre le dumping. Et,
on y est là. C'est un cas flagrant de dumping.
L'industrie chinoise, c'est un cas flagrant de dumping. Et si vous voulez, derrière, il y a cette évolution de la Chine. On parlait de total capitalisme. Donc aujourd'hui, Xi Jinping est revenu à un système totalitaire de type maoïste, avec d'abord un degré de contrôle de la population extrêmement élevé, y compris avec un Big Brother numérique, et surtout avec le rétablissement du contrôle du Parti communiste sur l'entreprise et sur la recherche. Et donc, c'est quand même l'homme qui aura fait passer la croissance chinoise de 9,5 à moins de 3%. Et ça, elle y est durablement. Mais du coup, l'espèce de… Et en revanche, donc on a totalitarisme, mais le capitalisme est maintenant à l'arrêt. Et dans ce qu'avait vendu le pacte social implicite du Parti communiste chinois, c'était de dire aux Chinois, vous n'aurez pas de liberté politique, oui, mais nous vous garantissons
la prospérité,
la croissance, le plein emploi, ouais, et par ailleurs les satisfactions nationalistes. La croissance, elle n'est plus là. Les Chinois, avec le krach de l'immobilier, ouais, beaucoup de familles chinoises sont ruinées. Il y a 20% maintenant des jeunes qui sont diplômés, ouais, à tel point qu'ils ont supprimé les statistiques sur le chômage des jeunes. Ce qui est, alors, on peut supprimer la statistique, mais ça ne règle pas le problème. Et du coup, on a, à l'inverse, de plus en plus un accent mis sur l'impérialisme chinois, ce qui est évidemment un énorme problème.
Ouais.
Et finalement, si vous voulez, Xi Jinping aura cassé la mondialisation qui a fait l'émergence de la Chine. Il l'a cassé économiquement,
source de
il l'a cassé
stratégiquement. On le voit bien,
évidemment.
De tension, évidemment. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Entretien donc avec l'économiste et essayiste Nicolas Bavrez en direct sur Boursorama. Retrouvez tout à l'heure à 14h en replay. Merci à vous.
Merci.